Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et donnez le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions, ô Dieu qui avez donné, envoyez votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens. Saint Pidis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Saint Ignace de Loyola, Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Donc nous allons un peu progresser dans ces commentaires à partir des les textes des pères choisis par l'Église pour cette sainte quarantaine. Donc, je crois que la ligne générale des explications données par les pères, je vous rappelle que je suis les commentaires des pères sur l'Évangile de chaque jour pendant le temps de carême. La ligne générale, c'est de jeûner pour les bonnes raisons. On peut résumer tout ça sur une magnifique phrase de Saint Léon Pape. Parce qu'il dit, le point essentiel de notre jeûne ne consiste pas en effet dans l'abstinence des aliments. C'est sans profit qu'on diminue la nourriture du corps si l'âme ne s'éloigne pas du péché. Et le but de la manœuvre, c'est pas de perdre des kilos. Le but de la manœuvre, c'est d'augmenter nous l'amour du bon Dieu. Donc, il faut qu'à la fin du carême, nous ayons en notre cœur, notre âme, plus d'amour du bon Dieu, évidemment, qu'en début de carême. Donc, qu'on ait fait pénitence en réparation pour nos péchés. Donc, quelqu'un qui mettrait l'essence du jeûne dans l'abstinence de nourriture n'a rien compris. Bon, certes, l'Église demande de jeûner surtout pour lutter contre les tentations, contre les différentes concupiscences. J'expliquais ça hier, c'est pour ça que l'Église demande surtout pendant les temps de jeûne, les temps de pénitence, donc les trois grandes pénitences, à savoir la prière, le jeûne et l'aumône. Mais Saint Léon le dit bien, c'est sans profit qu'on diminue la nourriture du corps si l'âme ne s'éloigne pas du péché. Donc, il faut en quelque sorte à la fin du carême, avec l'arrivée à Pâques, se dire, alors, est-ce que j'aime plus le bon Dieu maintenant qu'au début du carême? Est-ce que j'ai plus de haine du péché maintenant qu'au début du carême? Parce qu'on ne peut pas séparer les deux choses. On ne peut pas séparer la haine du péché de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et justement, ça c'est très important à comprendre, parce que je pense que c'est un des crimes de l'Église de Vatican de devoir séparer les deux choses. Donc on oublie complètement la haine du péché, on ne parle plus que de l'amour du bon Dieu. On ne comprend pas que l'amour du bon Dieu, s'il n'entraîne pas chez nous la haine du péché, se couper du péché, ça ne vaut plus rien. Se rappeler le texte surtout de Saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 13, d'ailleurs qui sera repris après par beaucoup de pères, ben, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il va même jusqu'à dire, même si je donne mon corps pour être brûlé pour les autres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alors, dans quel sens il faut comprendre ça? Qu'est-ce que c'est que la charité dont parle Saint Paul? La charité dont parle Saint Paul, c'est état de grâce. État de grâce, c'est absence de péché. Donc quelqu'un qui jeûne pendant le carême et qui n'a pas compris que le jeûne consiste d'abord à s'éloigner une moelle du péché pour se rapprocher de Dieu, il n'a rien compris. C'est une espèce de balancement, si vous voulez. Plus je m'éloigne du péché, plus je me rapproche de Dieu. Et au contraire, et l'inverse est aussi vrai. On ne peut pas séparer les deux choses. Alors, les pères expliquent ça, donc ils citent, l'Église a choisi toute une série de textes de Saint Paul pour nous faire comprendre qu'il est obligé de faire un choix. Entre autres, au début du carême, on voit ça au premier dimanche de carême. Très intéressant de voir quels sont, par exemple, les textes qui ont été choisis pour les dimanches de carême par l'Église. Pour les trois, pour les premiers nocturnes, c'est qu'il y a dans le dimanche, les dimanches, même pendant le carême, il y a 9 leçons pour les matines. Donc les 3 premières leçons sont toujours prises de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Bon. Et là, l'Église a pris justement pour le premier dimanche de carême la grande épître de Saint Paul aux Corinthiens, qui est très connue, hein, qui montre justement très bien tout ça. Voilà maintenant, dit saint Paul, un temps favorable. Voici maintenant un jour de salut. Ne donnons à personne aucun scandale, afin que notre ministère ne soit point décrié. Montrons-nous au contraire en toutes choses comme des ministres de Dieu pour une grande patience dans les tribulations, dans les nécessités, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes et ces longues listes d'obstacles à notre sanctification. Et ça, il ne parle pas simplement des ministres, c'est des prêtres et des évêques, mais aussi des fidèles. Par la pureté, par la science, par la longanimité, par la mansuétude, par l'Esprit Saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la force de Dieu, par les âmes de la justice à droite et à gauche, dans la gloire et l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation, comme séducteur et cependant sincère, comme inconnu et toutefois très connu, comme mourant et voici que nous vivons, comme châtié mais non mis à mort, comme triste maintenant toujours dans la joie, comme pauvre mais enrichissant beaucoup d'autres, comme n'ayant rien et possédant tout. Et la conclusion est très belle. Saint Paul donc explique bien ce combat, ce qu'on appelle le combat de la foi, et il finit en mettant bien les choses en point, en disant « Ne traînez point le même joug que les infidèles. » Car quoi de commun entre la justice et l'iniquité? Quelle alliance entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre l'amour du bon Dieu et l'amour du péché? Donc on ne peut pas prétendre aimer le bon Dieu si on aime en même temps le démon, ce n'est pas possible. Donc saint Paul va insister. Quel accord entre le Christ et Bélial? Quel commerce entre le fidèle et l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu le dit, j'habiterai en eux, je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur peuple et ils seront mon peuple. Alors saint Paul explique très bien que le péché est encore plus grave dans l'âme d'un chrétien parce que le chrétien est le temple de Dieu. Donc le même péché mortel, par exemple, qui a le malheur d'exister dans le temple de Dieu, fait beaucoup plus de mal à Dieu que le même péché mortel qui existe dans un temple qui n'est pas sanctifié par la divinité. À savoir, par exemple, l'âme d'un quelqu'un qui n'est pas baptisé. L'âme d'une personne qui n'est pas baptisée, évidemment, je ne dis pas qu'il y a des excuses, mais à partir du moment où on a reçu le baptême, ne pas oublier que notre âme est marquée de façon définitive. C'est pour ça qu'on dit que c'est un caractère. Et le caractère entraîne chez nous des obligations graves. Vous voyez ? Alors, vous voyez, ça c'est quelque chose de très très important à comprendre. Et il faut le rappeler surtout à nos enfants. D'abord pour que nous nous comprenions bien, et puis après l'expliquer à nos enfants. C'est-à-dire que si je n'ai pas compris qu'un catholique c'est quelqu'un qui est obligé par la force des choses de se couper du monde, ben, j'ai rien compris. Et donc après il va expliquer ça avec encore plus. Donc après il y a les commentaires, ça qui est très beau, c'est les commentaires des papes. Qui explique justement ces choses-là. Hein. Donc, il reprend le texte de saint Paul. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant les jours du salut. Ça veut dire quoi? Et maintenant qu'on est en carême, c'est le temps de s'occuper de notre affaire principale, qui est l'affaire de notre salut. Et là, il y a un texte splendide d'explication d'un saint Léon. J'ai déjà utilisé ce texte pour le premier cours que je donnais sur la somme théologique de saint Thomas. Je vais vous le relire. Et puis, je vais vous lire l'autre partie que je n'avais pas lue la dernière fois et qui est splendide. Donc, saint Léon montre que la fête de Pâques doit être pour nous le point d'arrivée, donc le point d'arrivée de la grande bataille contre le péché. Mais il explique que tous les gens ne vont pas y arriver. Donc, il dit, cette force d'âme qui est nécessaire pour pouvoir arriver à la fête de Pâques, cette force d'âme est l'apanage du petit nombre, tandis que d'un côté, la fragilité de la chair entraîne le relâchement d'une observance très austère. D'un autre côté, les diverses occupations de cette vie divisent et partagent notre sollicitude. Il arrive nécessairement que la poussière mondaine souille les cœurs religieux eux-mêmes. C'est donc avec une grande utilité pour notre salut qu'a été ménagée cette institution divine afin que ces exercices de 40 jours, le carême, nous aident à recouvrer la pureté de nos âmes en rachetant alors par des œuvres pies et chastes jeûnes les fautes des autres temps de l'année. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pendant le carême? Première chose à faire, nous disent les saints, nous disent les saints-pères, c'est justement de rattraper par le jeûne, par l'esprit de pénitence, les fautes du reste de l'année. Et ça, c'est pour tout le monde. Il dit spécialement qu'il y a simplement un petit nombre de personnes qui sont capables de passer par la lumière, par le monde moderne, sans être contaminées par ce monde moderne. Donc il convient, dit-il, Tout vous lire, ce serait un peu trop long, mais c'est magnifique comme texte. Il convient que l'esprit soumis à Dieu et gouverné par lui soit le maître du corps qui l'anime. Car nous mériterions de justes reproches de la part des infidèles et des langues impies, ça meurait par notre faute pour injurier la religion, si la manière d'agir de ceux qui jeûnent était en désaccord avec la pureté d'une parfaite continence. Et toujours la même chose. Le point essentiel, dit-il, de ce jeûne ne consiste pas donc dans l'abstinence des aliments, c'est le texte que j'ai cité au début, mais sans profit, c'est sans profit qu'on diminue la nourriture du corps si l'âme ne s'éloigne pas du péché. C'est pour ça qu'il est très bon de commencer le carême avec une bonne confession un petit peu générale, de finir le carême encore par une bonne confession, cette fois-ci sur les péchés du carême. Donc il est très conseillé à tous ceux qui commencent le carême, mercredi et saint, on commence par une bonne confession, et on finit le carême entre le vendredi saint pendant le Triduum Sacré, c'est-à-dire vendredi saint, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, on finit le carême quand on peut, également par une bonne confession, pour justement essayer un petit peu de comparer les deux confessions. Est-ce que ma confession de fin de carême est meilleure que ma confession de début de carême? C'est-à-dire, est-ce que j'ai moins d'objets, moins de sujets de repentir en fin de carême qu'en début de carême? Alors, je continue d'avancer dans ces très beaux textes. C'est intéressant de voir justement le lien qui existe entre ces différents textes. Donc il explique un autre thème qui revient surtout chez les pères de l'Église pendant la première partie du carême, c'est bien nous faire comprendre que ce que le bon Dieu demande, ce n'est pas la foi, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Ce n'est pas parce qu'on connaît son catéchisme par cœur qu'on va au ciel. Hein. Ce n'est pas parce qu'on connaît son catéchisme sur le bout des doigts qu'on va au ciel, ça ne suffit pas. L'homme n'est pas jugé par la foi, mais par les œuvres de la foi. Et on oublie toujours ça. Parce que la foi sans les œuvres, ça ne vaut rien. C'est Saint Jacques qui en parle dans son deuxième chapitre de l'Épître de Saint Jacques. Il dit bien que la foi seule sans les œuvres de la foi est morte. Et c'est exactement ce que redit Saint Paul au 1er Corinthiens chapitre 13. Il dit bien, si j'ai la foi, mais je n'ai pas les œuvres de la foi, je suis à ce moment-là comme une cloche qui sonne. Et on entend le son, et puis au bout de quelques minutes, le son disparaît, il n'y a plus rien qui reste. Hein? Les gens pensent toujours que c'est la foi qui sauve, c'est faux, c'est du pur protestantisme. Il ne faut pas oublier que le démon est la foi. Il y a beaucoup de mécréants qui ont la foi, dans le sens qu'ils croient en l'intégralité de la foi catholique, ce qu'on appelle les catholiques non pratiquants. Je crois en Dieu, mais je ne pratique pas. Ça veut dire quoi en bon français? Ça veut dire je crois en bon Dieu, mais dans ma vie pratique de tous les jours, j'ai comme s'il n'existait pas. C'est l'hypocrisie pure et simple. Et donc, qu'est-ce que nous demande le bon Dieu pendant ce temps de carême, justement? C'est d'augmenter en nous la pratique de la foi, c'est-à-dire les œuvres de la foi. Donc, et voilà le texte ici qui est très beau de Saint-Augustin. S'il est possible de parvenir à la vie sans l'observation des commandements, par la foi seule qui est morte sans les œuvres, comment admettre que le Seigneur dira à ceux qu'il passera à sa gauche, allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges? Il leur reproche non pas de n'avoir pas cru en lui, de n'avoir pas pratiqué les bonnes œuvres. C'est-à-dire, c'est pas suffisant de croire en Dieu. Il faut vivre selon sa foi. D'ailleurs, dans le catéchisme de Saint Pilice, quand Saint Pilice lui-même parle des conditions d'appartenance à l'Église, il dit bien la foi et les œuvres de la foi. Et la pratique de la foi. La pratique de la foi, c'est quoi? La pratique de la foi, c'est la vertu de charité. Donc les œuvres de la foi. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera au royaume des cieux, mais celui au contraire qui écoute la parole du bon Dieu, qui l'aime en pratique, ça veut dire quoi? Qui écoute la parole du bon Dieu, ça c'est la foi. Qui l'aime en pratique, c'est la charité. C'est quoi la charité? La charité, c'est les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi et la charité, c'est une seule et même chose. Oui. Afin que personne, dit-il, ne se flatte d'obtenir la vie éternelle par la foi seule. Notre Seigneur nous annonce qu'il fera le serment de toutes les nations qui se trouveraient confondues dans les mêmes pâturages. Vous voyez? Donc on ne peut pas aller au ciel par la foi seule. Ça, on trouve beaucoup, beaucoup de textes des pères sur le sujet. Là, il cite, donc là, c'est toujours Saint Augustin. Se peut-il qu'ils aillent au feu éternel ceux qui n'ont point accompli des œuvres de miséricorde et qu'ils n'y aillent point ceux qui ont ravi le bien d'autrui ou se sont traités eux-mêmes sans miséricorde en détruisant dans leur cœur le temple de Dieu, comme si les œuvres de miséricorde étaient de quelque utilité sans l'amour? Ça veut dire quoi? Les œuvres de miséricorde sans la charité, c'est-à-dire la pratique de la foi, ça ne vaut plus rien. Et là, il cite évidemment le texte dont je vous ai déjà parlé, Saint Paul aux Corinthiens, « Quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, tout cela ne me sert de rien. » Alors vous avez des gens, encore une fois, qui connaissent leur foi par cœur, mais s'ils n'ont pas la pratique de leur foi, ça vaut rien. Et il insiste, et la conclusion est très belle, la combustion donc de ceux qui n'ont que la foi sans les œuvres sera donc éternelle, aussi bien que le feu et la vérité même nous assure que cette combustion sera le partage de ceux qu'elle a reconnus dépourvus non de foi, mais des bonnes œuvres. Donc il insiste. Donc c'est pas la foi qui est suffisante, la foi sans les œuvres de la foi, sans la charité, ce qu'on appelle une foi informe. La foi sans la charité, c'est comme un corps qui peut relier à une âme. Un corps sans âme, le corps est à, si vous voulez, est à la foi ce que l'âme est à la charité. Donc un corps sans âme, c'est quoi? C'est un cadavre. Vous êtes dans un cimetière, il n'y a pas un corps sans âme là-bas. Bien, le corps sans âme, dit Saint Paul, représente celui qui a la foi sans la charité. Celui qui a la foi sans la charité, c'est un cadavre spirituel. Un cadavre ambulant, c'est-à-dire que eh bien, il a la pestilence du péché en lui. Et pourquoi? Parce qu'il a simplement la foi, mais pas la pratique de la foi. Alors, je ne peux pas tout vous lire, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais tous les jours du carême, c'est ça qui est magnifique, il y a tout un commentaire donc, des pères, surtout de Saint-Augustin, mais aussi d'autres pères, parfois très peu connus, je vais en citer certains passages. Et on retrouve la même idée partout. Hein, parce que moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Je vais l'éteindre tout de suite. Excusez-moi. Je peux vous donner un autre exemple ici avec Saint Bède le Vénérable. Vous voyez, qui dit exactement la même chose. Donc, il prend comme exemple le figuier maudit. Donc, c'est un des exemples qui est pris par la Sainte Écriture. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ qui vient, qui cherche des figues sur un figuier, il trouve que le figuier. Il y a un coup de téléphone de Madame Bruno, de Mme Saguio, c'est embêtant ça. C'est quoi ce bazar? Bon, allez. Donc, je reprends. Ça, c'est un coup du démon pour troubler les gens. Voilà. Alors, voilà ce que dit Saint-Bède, qui dit exactement la même chose. Saint-Bède le Vénérable, hein, qui était un anglais, je crois, de nation. Hein. Voilà ce qu'il dit. Donc, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui va chercher des figues sur un figuier. Donc, le figuier représente la foi, la figue, c'est l'œuvre de la foi. Et qu'est-ce qu'il trouve? Tout le figuier sans figue. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va condamner le figuier. C'est pour expliquer que Dieu condamne les âmes qui ont la foi, mais qui n'ont pas la pratique de la foi, à savoir la charité. Ce que le Seigneur accomplit en figure lorsqu'il maudit le figuier, qui n'avait point de fruits, il le montra bientôt plus clairement en chassant du temple des marchands improbes. Ça veut dire quoi? Donc, il fait une comparaison entre le figuier qui n'a pas de figue, et les marchands du temple qui vendent des choses qui sont pas faites pour être vendues dans le temple. Donc qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il montre bien que ces marchands ont la foi sans les œuvres de la foi, et donc il prend un fouet de corne et il chasse tous. Cet arbre ne commit aucun péché parce qu'il se trouva sans fruit lorsque le Seigneur eut faim, leur saison n'étant pas encore venue. Mais ils furent coupables de péché, ces prêtres qui s'occupaient dans la maison du Seigneur de négoces profanes et se dispensaient de porter les fruits de piété que le Seigneur avait le droit d'attendre et qu'il était comme affamé de trouver en eux. Donc, ce n'est pas la faute de l'arbre de ne pas avoir de figues, mais ce n'est pas la saison des figues. Bon, si notre Seigneur va chercher des figues et sur un figuier en plein hiver, il ne va pas en trouver. Bon, mais pourquoi il condamne, pourquoi il maudit le figuier? Pour bien montrer que s'il y a une saison des figues pour le figuier, il n'y a pas de saison des fruits pour le catholique. Et le catholique ne doit pas se contenter d'avoir des fruits, à savoir les fruits spirituels de sa foi, pendant la saison des fruits, mais toute l'année. Vous voyez? Donc, en fait, il explique, le Seigneur dessécha l'arbre par sa malédiction, afin que les hommes, voyant et apprenant ce prodige, comprissent qu'ils seraient eux-mêmes à bien plus forte raison condamnés au jugement de Dieu, si stériles en bonnes œuvres, ils se complaisaient dans les applaudissements accordés à leur pieux discours, comme dans le bruissement et l'ombrage d'un verdoyant feuillage. Et c'est tout. Et avec la magnifique poésie des pères qui avaient une parfaite maîtrise de la langue, vous voyez. Et puis après, il insiste, il enfonce le clou, je peux vous lire le texte, ça c'est du, Le Saint Bède le Vénérable, c'est très dommage. Moi, j'ai beaucoup souffert au séminaire, on n'a pas le temps. On n'a pratiquement pas eu de patrologie. Pas eu de patrologie, on n'a pas le temps d'étudier la pathologie parce que pratiquement, il faudrait une année complète d'études simplement pour avoir une idée de ce qu'est la pathologie. Il y a des choses splendides dans les pères. Si donc le Seigneur ne voulait pas qu'on vendît dans le temple, c'est qu'il voulait qu'on offrît dans le temple, cela sans doute à cause du penchant à l'avarice et à la fraude qui est d'ordinaire le propre négociant. Quel châtiment n'aurait-il pas infligé s'il avait trouvé là des personnes occupées à rire ou à parler de choses frivoles ou se livrant à quelque autre inconvenance? Car le Seigneur ne peut souffrir qu'on s'occupe dans sa maison d'affaires temporelles. C'est quoi sa maison? Sa maison, c'est l'âme, auquel il est permis de vaquer librement ailleurs. Combien davantage des actions qui ne sont licites nulle part mériteront-elles la colère divine si elles se commettent dans les édifices consacrés à Dieu? Oui. Je lis le texte parce qu'il est très beau. On considère avec raison les colombes qui se vendent dans le temple, donc, comme emblème des dons du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit descendit sur notre Seigneur en forme de colombe. Quels seraient donc aujourd'hui ceux qui vendraient des colombes dans le temple de Dieu, sinon ceux qui recevraient dans l'Église le prix de l'imposition des mains? De cette imposition des mains, on reçoit l'Esprit Saint venant du ciel. Bon, là, il parle du péché de simonie. Bon, c'est le symbole, si vous voulez, de tous les gens qui pour obtenir des choses matérielles, sont prêts à vendre leur âme. Et il y a beaucoup de textes comme ça, je n'ai pas le temps de tous vous les lire, mais il y a des textes splendides. Alors, je peux vous donner des références, ça prendrait trop de temps. Pour résumer, il y a un texte magnifique de Saint Ambroise. Les textes de Saint Ambroise sont plus difficiles, plus fins, je dirais. Mais il explique bien, le Seigneur explique bien en Saint Ambroise, il y a deux éléments donc en l'Église. Premier groupe, les gens qui commettent point de péché, les autres qui renoncent au péché. Et les pères disaient aussi qu'il y avait deux voies pour aller au ciel, la voie de l'innocence et la voie de la pénitence. Et une fois que la voie de l'innocence est perdue, eh bien, il n'y a plus que la voie de la pénitence qui reste. On ne peut pas, une fois qu'on a perdu l'innocence, retrouver la voie de l'innocence pour aller au ciel. Parce que la voie de l'innocence ne concerne que les enfants morts sans baptême, en fait. Ou les personnes qui n'ont jamais commis une seule faute grave, ce qui ne se rencontre pas tous les matins. Et donc, il le dit bien, donc il y a deux groupes dans l'Église, si vous voulez, les premiers qui commettent point de péché, plus exactement, ça veut dire les premiers qui n'ont pas encore commis le péché, ou qui commettront sans doute jamais, il y a quand même des grands saints qui n'ont jamais commis le péché, moins de péché grave, et les autres qui renoncent au péché. Donc, il faut, ce qu'il faut, ça qu'il faut comprendre, c'est que j'ai le droit d'utiliser la voie d'innocence pour aller au ciel tant que je n'ai pas commis de péché. Mais si j'ai offensé le Dieu par le péché, à partir du moment où j'ai offensé le bon Dieu par le péché, ça veut dire qu'immédiatement la voie de l'innocence m'est fermée. Et donc, il ne me reste plus que la voie de la pénitence. J'avance parce qu'on n'a pas le temps, encore une fois, de tout expliquer. C'est tellement riche, il faudrait expliquer ça pendant un temps très, très, très long. On n'a pas le temps de tout voir. Hein. Donc, il y a d'autres textes qui redisent la même chose. On trouve les mêmes idées. On voit très bien que l'Église, si vous voulez, va prendre toutes les mêmes idées expliquées par différents pères de l'Église. Je vois un autre texte là, de saint Augustin. Le grand jeûne, c'est le jeûne du carême, le jeûne qui oblige tous les hommes, consiste à s'abstenir des iniquités, des plaisirs illicites du monde. Donc il dit bien que le jeûne correspond d'abord à l'abstinence de péché. Et ça, tout le monde y est tenu. Je répète, le grand jeûne, le jeûne qui oblige tous les hommes, consiste à s'abstenir des iniquités, des plaisirs illicites du monde. C'est un jeûne parfait que de renoncer à l'impiété et aux désirs du siècle, et de vivre sobrement, justement et pieusement en ce monde. Et, encore une fois, celui qui n'a pas compris ça, eh bien, il n'a rien compris. Donc il répète après, c'est toujours de saint Augustin, nous observons donc en ce monde une abstinence quadragésimale, c'est-à-dire ça c'est le carême, par une vie régulière en nous abstenant du péché, des plaisirs défendus. Donc le jeûne dans l'esprit de l'Église, c'est d'abord l'abstention des choses irrégulières dans notre vie, l'abstention du péché. Bon, j'ai pas le temps de tout expliquer, c'est beaucoup trop long. Donc le rôle, si vous voulez, le rôle du prêtre consiste justement à aider les gens, ben, on va commencer par son exemple de vie personnelle, évidemment, c'est notre travail, donc de comprendre que si notre vie intérieure ne correspond pas à ce que le bon Dieu a voulu trouver en nous, à ce moment, il manque l'essentiel. C'est pour ça que le jeûne du carême qui ne correspond pas à une recherche en nous d'éviter le péché est une hypocrisie pure et simple. Alors, il rappelle d'autres textes, je n'ai pas le temps de tout expliquer, donc d'autres textes expliquent que justement cette purification, elle est faite par l'intermédiaire des prêtres, parce que c'est les prêtres, justement le pape et les évêques, qui ont reçu du bon Dieu les clés du pardon des offenses. Voilà ce que dit, là ici c'est un autre, ça c'est Saint Léon encore une fois, qui parle de Saint Pierre, qui reçut comme privilège la fermeté sacrée de cette pierre inviolable sur laquelle l'Église est fondée. Les portes de l'enfer et les lois de la mort ne peuvent prévaloir contre elle. Dans n'importe quelle cause, qu'il s'agisse de lier ou de délier, tout est ratifié au ciel conformément à la sentence de Pierre. On voit très bien que là, c'est Saint Léon, donc 1000 ans avant nous, même plus de 1000 ans avant nous, et bien déjà, il croyait bien sûr à l'infaillibilité pontificale. Et il y avait d'autres textes splendides que j'avais trouvés. Donc, l'Église, en avançant dans le carême, va prendre d'autres exemples. Par exemple, un exemple très fort que va prendre la Sainte Église pour nous aider à comprendre ces choses-là, c'est l'exemple d'Isaac donc, et de ses fils, Jacob. Jacob et... attends, je me trompe. C'est ça. Ésaü et Jacob. Donc, Isaac devient vieux et, en fait, le bon Dieu a prévu que Jacob va prendre la place d'Ésaü. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église catholique va prendre la place de l'Église, va prendre la place des Juifs. Et là, il y a des passages splendides. J'ai toute une note, je vous dis un peu long, mais elle est splendide. Pour vous aider à comprendre justement comment l'Église interprète toutes ces choses-là. Vous voyez, donc, l'Église explique bien. Il y a deux images. La première image, c'est le peuple juif. Donc, refuse notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, un autre peuple va prendre la place du peuple juif. La deuxième image qu'il faut tout de suite rajouter, c'est que c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que le bon Dieu a voulu que les catholiques aillent, justement, soit ceux qui prennent la route du ciel. Mais si ces catholiques ne prennent pas la route du ciel, d'autres personnes vont venir et vont prendre leur droit d'aînesse, c'est-à-dire vont aller au ciel avant eux. Alors voilà, ici, là, il y a un très beau texte qui vous montre justement ce que ça représente. Donc il y a d'abord un texte de Saint Augustin qui explique ce long passage de l'Écriture sainte. Bon, je vais pas l'expliquer parce que c'est très long. Vous savez que donc c'était Rebecca, c'est ça. Rebecca donc était l'épouse de Isaac, elle est patriarche de l'Ancien Testament. Donc qui a poussé par le bon Dieu, c'est vraiment un effet de la révélation là. Elle savait que c'était Jacob qui devait prendre la place d'Ésaü, et donc elle va présenter Jacob à la place d'Ésaü à son mari pour que le mari, c'est-à-dire son mari Isaac, transmette la bénédiction, ce qui est très important pour les Juifs. Et donc elle va, Ésaü était un homme très velu, donc elle va couvrir les bras et les mains de son fils Jacob. Elle va couvrir ses bras d'une peau de mouton pour que tromper son mari. Donc c'est pas un mensonge. Saint Augustin fait bien remarquer, attention, c'est pas un mensonge, c'est un mystère. Et voilà, et puis il va donner la clé. Nous trouverons que les peaux de chevaux représentent les péchés que Jacob, revêtu de ses peaux, l'image de celui qui, n'ayant point de péché, porta ceux d'autrui. Donc, Jacob, qui est couvert de peau de brebis pour prendre la bénédiction, représente notre Seigneur Jésus-Christ qui prend sur lui les péchés du monde afin de porter pour nous la croix que nous refusons nous-mêmes de porter. Et là, il y a un texte splendide d'un autre, pas vraiment un père, Saint Hippolyte, qui est un martyr du 1er siècle. Donc voilà, je vous le dis parce que c'est splendide. Mais un peu comment c'est très intéressant de voir comment les pères comprenaient l'Écriture sainte. Ça n'a rien à voir avec notre façon actuelle de comprendre l'Écriture sainte. Et qu'on le veuille ou non, on a un peu imprégné cette histoire de, comment dire, cette idée moderne de comprendre l'Écriture sainte. Je me rappelle, c'est très ancré dans les gens. Je me rappelle quand j'étais en formation au séminaire, les disputes, c'était vraiment des disputes très fortes entre nous, entre ceux qui ne voulaient pas entendre parler de l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte. un mépris souverain pour cette interprétation. Et je me rappelle une discussion avec certains séminaristes de mon année, qui sont d'ailleurs sont tous retrouvés dans la Fraternité Saint-Pierre, c'est pas pour rien, qui disait Saint-Augustin interprétant l'Écriture sainte, c'est la pure poésie, c'est tout ce que c'est. C'est bien plus que la poésie. Là, je voudrais vous montrer un exemple, justement, j'ai deux exemples à vous montrer, qui sont très intéressants. Là, c'est Saint-Hippolyte Voss qui dit, donc vous avez Isaac avec ses deux fils, d'accord ? Isaac, Rebecca, sa femme, et les deux fils, Jacob et Ésaü. Jacob prend la place d'Ésaü. Voilà ce que dit Saint-Hippolyte. Isaac est l'image de Dieu le Père. Rebecca, celle du Saint-Esprit. Ésaü, celle du premier peuple ou même du démon. Jacob, celle de l'Église ou de Christ. La vieillesse d'Isaac est comme encore une image de la consommation des siècles. Sa cécité, vous ne voyez plus rien, symbolise le dépérissement de la foi dans le monde, ce flambeau de la religion dont les hommes dédaignent la lumière. Quand il appelle son fils aîné, il représente le choix qui fut fait de la joie, la loi judaïque. La promesse de la bénédiction, c'est la parole divine, donnant l'espoir du royaume futur où les saints régneront avec le Christ dans la gloire. Rebecca, devenue mère par la grâce du Saint-Esprit, n'oublie pas ce qui lui a été dit avant son enfantement. L'aîné sera le serviteur du plus jeune. Suivant une inspiration supérieure, elle aspire à figurer dans Jacob ce qu'elle va ses devoirs s'accomplir dans le Christ. Elle dit à ce second fils, « Va dans la bergerie, prends-là pour moi deux chevreaux. » Cet ordre d'en rapporter deux signifie l'élection des deux peuples. La tunique ou les vêtements d'Ésaü, c'est la foi des Hébreux en leurs écritures, foi dont le peuple des gentils sera revêtu. Les peaux jetées autour des bras de Jacob sont les péchés de l'un et de l'autre peuple, que le Christ, en étendant les bras, clouera sur la croix avec lui-même. Isaac, demandant à Jacob comment il est revenu si vite, c'est un hommage rendu à la foi si prompte des chrétiens. Le mets agréable offert à Isaac, c'est l'hostie qui plaide à Dieu et sauve les pécheurs. Après le repas, vient la bénédiction et la suave odeur qui réjouit le vieillard, là nous voyons annoncer le céleste royaume. Ses frères qui adorent et servent Jacob, ce sont les croyants d'entre les enfants d'Israël. Et comme l'iniquité déteste la justice, Ésaü s'abandonne à sa fureur et médite en secret de donner la mort à son frère. Les juifs fratricides, figurés déjà par Caïn, sont indiqués plus clairement dans la personne d'Ésaü. Rebecca fait connaître ses noirs desseins à son mari. Celui-ci mande Jacob et lui donne l'ordre de se rendre en Mésopotamie et d'y prendre pour femme une fille de Laban. De même, le Christ, repoussé par l'incrédulité des Juifs, s'en va dans la Galilée où l'Église venant de la race des gentils lui sera donnée pour épouse. Vous voyez, c'est complètement différent de l'interprétation auquel nous-mêmes on est habitués. Et là, il y a un autre exemple. Ça, c'est pour un autre passage. On n'a pas le temps de tout expliquer. Donc, vous savez que Jacob, plus tard, va se battre avec un ange. Donc, un ange. Il va obtenir la bénédiction de l'ange, l'ange de Dieu. Et voilà l'interprétation que donnent les pères. Donc, sous une forme humaine, ce fut un ange qui lutta contre Joseph. Pourquoi cette lutte ? Contre Jacob, pardon. Et pourquoi cette lutte ? Afin que s'il est sans vaincre par Jacob, il lui donna l'espérance de triompher à plus forte raison de son frère Ésaü. Cette lutte, donc entre l'ange et Jacob, figurait symboliquement l'état dans lequel demeurèrent les Israélites jusqu'à la venue du Christ, état tel qu'à cause de leur péché, Dieu fut souvent prêt de se retirer d'eux, et qu'il s'en serait en effet retiré depuis longtemps, si Jacob ou d'autres saints comme Moïse, David, Élie, Isaïe ne l'eussent retenu. Cette idée est aussi l'image de la vie chrétienne, qui est un combat continuel, et où l'on reste toujours victorieux si l'on est armé, et si l'on combat généreusement comme Jacob, car selon saint Grégoire de Nazianze, le péril et la souffrance fortifient l'âme, comme l'eau froide durcit le fer rougi au feu. Et donc il est très important pour nous d'utiliser, si vous voulez, ce temps de carême, justement pour nous préparer en quelque sorte à monter vers le bon Dieu. Alors on pourrait aussi, on n'a pas le temps de tout faire, encore une fois il faut beaucoup plus de temps, on peut aussi utiliser, je vous l'ai déjà dit hier, certaines des oraisons, il y en a qui sont splendides, je vous en donne ainsi quelques exemples. On reprend le même thème, les oraisons reprennent le même thème. Daignez faire au Dieu Tout-Puissant, ça c'est l'oraison pour le lundi de la deuxième semaine de carême. Daignez faire au Dieu Tout-Puissant que vos fidèles qui, pour mortifier leur chair, observent l'abstinence, jeûnent aussi du péché en pratiquant la justice. C'est la même idée. Le jeûne, c'est d'abord le jeûne du péché. Et s'il n'y a pas le jeûne du péché en nous, ben, tout ce qu'on fait, ça vaut, ça vaut plus rien, vous voyez. Donc il faut demander justement au bon Dieu d'arriver à comprendre toutes ces choses-là pour être convaincu que le bon Dieu ne se demande pas simplement d'éviter le péché par peur de l'enfer, mais le bon Dieu veut que dans les temps de pénitence, mais on monte un degré plus haut pour qu'on arrive finalement avec la grâce du bon Dieu à éviter le péché, non pas encore une fois par peur de l'enfer, mais éviter le péché par amour du bon Dieu. Et quand on arrive à éviter le péché par pur amour du bon Dieu, on tombe dans ce qu'on appelle une contrition parfaite, et la contrition parfaite efface tous les péchés immédiatement. Donc, le but, si vous voulez, de ce jeûne quadragésimal, donc le jeûne de carême, c'est d'amener l'âme à la contrition parfaite. Donc, si vous voulez, pour expliquer, on peut expliquer comme ça. Donc, au début du carême, l'âme est dans une contrition peut-être servile, ou au moins imparfaite. C'est-à-dire qu'elle regrette son péché par peur de l'enfer, c'est tout. Bon, ce qui est en soi bon, l'Église a toujours dit que la contrition imparfaite, c'est-à-dire la peur du péché, par peur de la crainte du, le refus du péché par peur de l'enfer était acceptable à condition qu'elle soit jointe à l'absolution sacerdotale. Mais si j'ai en début de carême une contrition purement, je dirais, une contrition purement, une attrition pure, c'est-à-dire, pas une attrition, excusez-moi, une contrition purement imparfaite de mes péchés, il faut qu'en fin de carême j'obtienne la contrition parfaite de mes péchés. Et si je ne suis pas arrivé en fin de carême à la contrition parfaite de mes péchés, justement, il faut à ce moment-là se mettre au pied du bon Dieu le vendredi saint pour que par la mort, sa mort sur la croix, le bon Dieu transforme cette contrition imparfaite en contrition parfaite. Donc, si bon, la contrition imparfaite est représentée par donc, le vendredi saint, la contrition parfaite, c'est la regret de nos péchés par pur amour de Dieu, c'est représenté par la fête de Pâques. Donc, on a, si vous voulez, la contrition imparfaite, donc qui est représentée par toutes les pénitences du carême, qui est assez difficile parce que ça demande de faire pénitence. Mais une fois qu'on a dépassé ça, qu'on est passé en contrition parfaite, l'amour de Dieu qui détruit tous nos péchés, détruit tous les péchés de telle façon que l'âme peut directement aller au ciel. C'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui peut monter au ciel après être ressuscité entre les morts le jour de Pâques. Vous voyez ? Donc, il y a d'autres exemples de ce genre. Un autre exemple, par exemple, qui va utiliser, un autre exemple qui va être utilisé par la liturgie, c'est l'exemple de Lazare. On trouve ces mêmes textes. C'est pour ça qu'il y a tous ces textes pendant le carême. L'exemple de Lazare. Donc, Lazare qui passe 4 jours au tombeau, donc le frère de Sainte Marie-Madeleine, qui passe 4 jours au tombeau, mais qui va ressusciter d'entre les morts. On trouve aussi par exemple d'autres exemples. Il n'y a pas simplement l'exemple de Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine, mais aussi par exemple l'exemple de Lazare, le pauvre Lazare qui est couvert d'ulcères. Bon. Couvert d'ulcères, voilà ce que dit ici c'est Saint Grégoire. Donc on reprend là un autre texte sacré qui est présenté. Donc là c'est la cinquième férie du. Donc le jeudi, la deuxième semaine de carême. Donc l'évangile commence par ces mots. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour une splendide chair. Puis à sa table, au pied de sa table, à ses pieds, comme marchepied, il y avait un pauvre, Lazare. Que signifie, mes chers frères, dit Saint Grégoire, que signifie ce riche qui est couvert de pourpre et de fin lin en faisant tous les jours très bonne chair? Sinon le peuple juif dont la vie paraissait à l'extérieur bien ordonnée et qui se servait de la loi qu'il avait reçue pour en faire ostentation tout en vivant dans les délices et non pour son utilité. Et Lazare couvert d'ulcères n'est-il pas la figure du peuple gentil? Ce peuple, s'il se convertit à Dieu, ne rougit pas de confesser ses péchés, et son mal vint ainsi à l'extérieur comme l'humeur attirée à la peau par une blessure sort de la chair. C'est-à-dire que, le pauvre qui refuse, le riche pardon, qui refuse de se convertir, ne représente pas simplement le peuple juif, comme dit Saint Grégoire ici, mais aussi tout simplement tout pécheur qui refuse de faire pénitence. Et au contraire, Lazare, qui, couvert d'ulcères, et reçoit, si vous voulez, la bénédiction de Dieu, ce Lazare couvert d'ulcères représente le pécheur pénitent qui, par la bénédiction divine, efface tous ses ulcères. Et puis, Saint Grégoire explique, qu'est-ce donc que confesser ses péchés, sinon ouvrir en quelque sorte toutes ses plaies? Car le venin du péché, qui était pestilentiel pour l'âme, tant qu'il y demeurait caché, trouve une issue salutaire par la confession. Donc, la confession, si vous voulez, est représenté, il y a d'autres textes dans l'Écriture sainte qui expliquent bien ça, que la confession représente, si vous voulez, Lazare couvert d'ulcères, qui est nettoyé par le bon Dieu, les ulcères représentant le péché. Une autre image qu'on trouve souvent dans l'Écriture sainte, c'est l'image du lépreux. Naaman, par exemple, l'Écriture sainte, Naaman le Syrien, qui, par exemple, va être guéri de sa lèpre, la lèpre représente le péché. Donc il trouve la foi, et la foi, avec la pratique de la foi, lui enlève tous ses ulcères, il perd la lèpre, et il retrouve, dit l'Écriture, il retrouve à ce moment-là une peau de bébé, littéralement, vous voyez. Alors, tout ça, c'est très très beau. Bon, encore une fois, j'ai pas le temps de tout s'expliquer parce qu'il faudrait énormément de temps. Je voudrais finir par, je ne vais pas vous garder trop longtemps, vous allez après méditer sur le chapelet devant Saint-Sacrement. Mais un autre exemple qu'on retrouve, par exemple, on retrouve cet exemple samedi de la deuxième semaine de carême. Cet exemple, il est beaucoup plus connu. Et c'est l'exemple de la parabole de la miséricorde de l'enfant prodigue. Vous le connaissez, on l'explique pendant toutes les retraites. Donc, Saint-Luc, chapitre 15, donc le plus jeune, l'enfant prodigue, qui demande la part de son bien à son père. Et voilà comment explique justement, c'est Saint Ambroise, vous verrez comment, encore une fois, les pères de l'Église, ils avaient une extraordinaire lumière de ces choses-là. Donc, pour lui, le fils prodigue, donc, qui se sépare de son, qui récupère tout le bien de son père pour le gaspiller, représente celui qui se sépare tout simplement de l'Église catholique. On a raison de dire qu'il dissipe son patrimoine, celui qui se sépare de l'Église. Et je vous lis le commentaire qui est splendide. Donc, ça, c'est Saint Ambroise. Saint Ambroise, c'est l'évêque qui a converti Saint Augustin. Il partit pour une région étrangère et lointaine. Est-il un éloignement plus grand que de s'éloigner ainsi de soi-même en rétrogradant, d'être séparé des justes, non pas par des frontières, mais par les mœurs, non par des continents, mais par les affections. Notre désunion avec les saints, parce que la mer agitée des plaisirs du monde s'étend, pour ainsi dire, entre eux et nous. Celui qui se sépare de Jésus-Christ est en effet exilé de la patrie céleste et devient citoyen du monde. Mais nous ne sommes pas des étrangers, mais les concitoyens des saints de la maison de Dieu. C'est-à-dire que celui qui abandonne l'Église pour partir dans le monde change de nationalité, c'est ce qu'il veut dire. Il perd la nationalité divine pour prendre une nationalité purement humaine. Oui. Cette région lointaine, donc, dit-il, est ainsi l'ombre de la mort. Hein? Après, il explique, l'enfant prodigue perdit donc, en vivant dans la débauche, la grâce qui est l'honneur et l'ornement de notre nature. Donc l'enfant prodigue qui avant de revenir vers son père, donc, vit dans le péché, représente celui qui perd la grâce sanctifiante. Apprenez de là où vous qui avez reçu l'empreinte de l'image de Dieu, ça c'est le baptême, et qui possédez sa ressemblance par l'état de grâce, à ne pas détruire en vous cette ressemblance par la laideur du péché, qui est indigne d'une créature raisonnable. Vous êtes l'œuvre de Dieu, ne dites pas un morceau de bois, tu es mon père, de peur que vous ne deveniez vous-même semblable au bois de vos idoles, car il est écrit qu'il leur devienne semblable ceux qui le font. Vous voyez donc. C'est l'enfant prodigue qui revient vers son père représente donc vraiment la personne qui avait quitté l'Église, quitté la grâce sanctifiante par le péché et qui retrouve l'amour du bon Dieu. Bon, ben, je ne vais pas vous garder trop longtemps parce qu'on va aller maintenant, on continuera ça demain, donc je n'ai pas encore une fois pas le temps de tout lire. Je vous conseille beaucoup pour ceux qui peuvent mettre la main sur un commentaire comme ça dans les bréviaires romains. Lire les commentaires au moins du temps de carême. J'ai déjà demandé plusieurs fois à M. Sec-Dillot, en espérant qu'un jour il pourra le publier, parce que c'est à mon avis très très bon de donner ces choses-là aux fidèles. Bon, on va aller maintenant à la chapelle pour méditer le mystère douloureux devant Saint-Sacrement.